bienvenue dans votre magazine de l'environnement. Comment New York, ville mythique et symbolique, se confronte-t-elle aux défis environnementaux?
Nous sommes dans la 125e rue à l'ouest de Harlem et nous nous dirigeons vers le West Harlem Pierce Park. C'est un parc qui longe les rives de l'Hudson. Alors ce parc était à l'origine un parking, le parking d'un supermarché qui est de l'autre côté de la rue. Et WeAct a organisé une campagne de rencontres avec les représentants, les personnalités clés de Harlem pour transformer ce parking en quelque chose, en un espace dont les gens auraient vraiment envie.
New York n'échappe pas aux conséquences des déséquilibres environnementaux de la planète. Ville côtière, la cité est aussi menacée par la montée des eaux et les subdivisions du pouvoir politique ne rendent pas toujours facile l'application d'une politique nationale sur l'environnement. À Harlem, dans le quartier nord de Manhattan, les habitants s'organisent et réfléchissent sur ces enjeux et sont très attachés à la notion de justice environnementale, car à New York, ce n'est pas seulement l'affaire des riches, bien au contraire. New York face aux défis environnementaux, ce sera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
J'aime bien les tortues, les flamants roses, les perroquets et les panthères. Faut pas menacer la nature parce que sinon les animaux ils sont tristes.
Mais tout de suite, et c'est le jeu de cette première partie, nous allons balayer l'actualité environnementale avec vous, Daniel Cohn-Bendit, bonjour.
Bonjour.
Allez-y, hein, servez-vous votre verre d'eau, il n'y a aucun problème.
Oui, j'ai le temps.
Alors, vous êtes un homme politique franco-allemand, élu du parti écologiste Die Grünen, vous êtes député européen et aujourd'hui vous êtes tête de liste pour l'Île-de-France du parti Europe écologique que vous avez créé avec d'autres.
Le Rassemblement.
Rassemblement pour les élections européennes du 7 juin prochain. Vous êtes donc actuellement en campagne.
Exact.
Alors, ça se passe bien ?
Oui, ça se passe très bien. On a fait hier une réunion assez extraordinaire, 6 heures pour l'Europe, à l'Odéon, où il y avait plus de 1000 personnes au théâtre dans Paris. Et il y avait des intellectuels, des écrivains de tous les pays qui étaient venus parler de leurs rêves et de leurs cauchemars quand ils pensent à l'Europe. Et c'était vraiment émouvant et fascinant en même temps. Et à la fin, il y avait un grand débat avec Edgar Morin sur justement le projet de civilisation, quelle civilisation pour répondre aux urgences environnementales.
Alors justement, on vous propose maintenant de réagir à l'actualité environnementale. Et pour commencer, Arnaud, il y a eu cette réunion en Sicile.
Oui, en Sicile, à Syracuse, en fin de semaine, des ministres de l'environnement du G8 et des pays émergents ont adopté la charte de Syracuse qui fait de la biodiversité une grande cause mondiale, au même titre que la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, lier ces deux grands thèmes de préoccupation, climat et biodiversité, cela permet d'affirmer que ces deux questions sont aussi préoccupantes l'une que l'autre. Mais avec vous, Daniel Cohn-Bendit, je voudrais juste les différencier pour avoir d'abord votre regard sur la question climat. Comment vous voyez la négociation climat à Copenhague, comment ça se présente? Parce que on a l'impression qu'on est quand même encore très proche de la date de décembre à Copenhague et on est très très loin d'un accord.
On est loin du compte. Alors, le problème, il est le suivant. Bon, l'Europe a son paquet climatique. Pour faire vite, ce qui a été voté les mois derniers, ça va dans la bonne direction, mais c'est nettement insuffisant. Pour le dire rapidement. Donc, face à la dégradation climatique, on est en deçà, en dessous et en deçà de ce qu'il faut faire. Et on va maintenant à Copenhague, où évidemment il y a une nouvelle administration, donc déjà ça va dans la bonne direction, mais ils viennent de tellement loin, les Américains, que le nécessaire, atteindre le nécessaire, c'est-à-dire une réduction de 30% de CO2 dans les années à venir, paraît vraiment très difficile. Alors, il y a la bonne volonté. On voit que les Américains, en ce moment, et le négociateur américain dit, oui, il faut faire un effort, mais ils reviennent à cette vieille stratégie de dire, on met le frein entre aujourd'hui et 2020, et à partir de 2020, vous allez voir ce que vous allez voir. Là, on va y mettre le paquet pour arriver à 80% de la réduction de CO2. Et ça, j'y crois pas. Et c'est ça le grand problème. Et donc, l'Europe doit aller plus loin. Et là aussi, on voit dans la crise où les gouvernements oublient, en fait, leurs bonnes intentions et que on en revient à ce problème que dans la tête on sait que la dégradation climatique c'est quelque chose à laquelle il faut répondre tout de suite et en même temps on fait une prime à la casse quand on voit les voitures qui est complètement aberrante et ridicule. Donc voilà le problème un peu qu'on a aujourd'hui.
Parce que c'est vrai qu'au G20 qui a eu lieu début avril, qui rassemblait donc tous les grands du monde, on peut dire, l'environnement était totalement absent.
Non seulement l'environnement était absent, mais de toute façon le G20, moi je crois que c'est très dangereux. Parce que justement, l'idée quand même forte de l'Europe, c'est tout le monde ensemble. Les grands et les petits. Et si on fait un monde où maintenant ce sont les grands qui décident, mais même au G20, l'environnement est absent, et quand on parle des paradis fiscaux qui ont des conséquences sur l'environnement, etc., parce que toutes ces grandes, ces entreprises qui en fait exploitent, par exemple, l'Afrique, etc., et qui passent par les paradis fiscaux, tout ça il faut les toucher, mais quand on a le G20, on ne parle pas des paradis fiscaux anglais. On ne parle pas de Monaco. Donc on parle toujours des autres, on parle des petits, et je crois que c'est très dangereux.
Alors justement, je voudrais revenir à la biodiversité, l'autre point de cette discussion à Syracuse. On a l'impression que la mobilisation est quand même moins forte sur les questions de biodiversité, alors qu'on est face à une phase d'extinction sans précédent quasiment dans notre histoire.
Oui, alors...
Est-ce que c'est parce que justement ça n'a pas d'impact ou moins d'impact sur le plan économique?
Je vais vous donner un exemple. Le 23 avril, donc c'est pas bien longtemps, on a voté au Parlement européen une directive sur le bois, sur l'importation de bois. Et justement, elle est très réductrice. C'est-à-dire, on dit, il faut prouver, il y a traçabilité, que c'est pas du bois qui vient des forêts d'Amazonie, etc., de régions, donc, où on défend la biodiversité. Eh bien, un jour avant, le ministère de l'Agriculture français avait envoyé une note à tous les députés français pour leur dire « Attention, vous allez voter une directive trop restrictive. » Donc on a les bonnes intentions de la déclaration de Syracuse et tout ça, et on a la pratique quotidienne qui dit « Oui, vu la crise, on ne peut pas être si tellement normatif sur, par exemple, les importations de bois. » Et c'est exemplaire. On est fort en déclaration générale, mais quand la pratique doit suivre, alors là, c'est plus difficile.
Alors, ce week-end a été marqué par le 23e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Alors, on a l'impression que toutes les leçons n'ont pas été vraiment tirées. Le nucléaire est en plein essor. Le débat sur cette technologie est toujours évacué.
Le nucléaire est en plein essor.
Comme dans Grenelle.
Les déclarations...
Il y a beaucoup d'annonces de réacteurs.
D'annonces. Par exemple, prenez la Suède. Ils ont annoncé qu'ils rouvraient le dossier nucléaire. Mais ils ont dit en même temps, pas d'argent public dans le nucléaire. Vous pouvez dormir tranquille.
Areva... La France essaye de développer ses EPR, là, essaye de vendre ses EPR un peu partout.
La France, Areva, avant que Sarkozy prenne la direction d'Areva après son deuxième mandat, ce qui est quand même son rêve, parce que là on gagne au moins de l'argent, eh bien Areva est en procès, ou la Finlande fait un procès à Areva, parce que l'EPR... construit en Finlande devait coûter 3,5 milliards, il en est à 6,5.
Mais la Chine et l'Inde veulent en acheter.
Ils ont, pour l'instant, ils n'ont rien commandé. Et nous, on a dit qu'on allait vendre des EPR à la Libye, à la Tunisie, rien n'est fait. Parce que, et pour la France veut développer son programme nucléaire. Mais d'abord, il faut savoir qu'est-ce que vous allez faire. Il faut démanteler Fessenheim. Ça coûte énormément. Vous avez une cinquantaine de centrales nucléaires en France. Hein ? Par centrale, ça va coûter 7 à 8 milliards, multiplié par 50. Où la France va trouver l'argent? Alors que, en développant, en investissant dans d'autres, dans une autre énergie, on investit à beaucoup plus long terme dans les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, je crois que le grand débat sur le nucléaire, c'est Tchernobyl nous a montré que c'est dangereux, mais laissons ça de côté. C'est les déchets nucléaires. Ça coûte combien? Qui investit et comment?
Et en même temps, les partisans du nucléaire, qui étaient il n'y a pas très longtemps au même micro que le vôtre, disaient que c'est difficile aussi de passer, notamment pour la France, d'un coup, du nucléaire aux énergies renouvelables.
Mais personne ne dit d'un coup.
D'énergie.
Personne ne dit d'un coup. Ça, c'est un mensonge. Les Allemands, avec les Verts au pouvoir il y a 6 ans, ont décidé de sortir du nucléaire. À partir du moment où ils ont dit, en 30 ans, En 30 ans, on est sorti du nucléaire et on a développé, à partir du moment de la décision, le renouvelable de 2% de renouvelable. Au moment de la décision, on arrive dans 3 ans à 30% de l'énergie. Donc la décision de sortir du nucléaire pousse le développement du renouvelable. Alors, ça ne sera pas du jour au lendemain, en France encore, mais le problème, c'est est-ce qu'on va maintenant renouveler le parc nucléaire ou est-ce qu'on va se lancer dans autre chose ? C'est ça le grand débat.
Ça semble être bien reparti quand même, le renouvellement du nucléaire.
Moi, je suis confiant parce que ça coûte très très cher.
C'est pas du vent.
Dans C'est pas du vent sur RFI et maintenant zoom sur l'actualité environnementale d'une partie du monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'Afrique.
Bonjour Zéphirin Quadio.
Bonjour à tous.
Alors, on commence par le Cameroun avec ce partenariat singulier entre le groupe hôtelier Accor et l'ONG SOSL.
Oui, les deux signataires de cet accord se sont engagés dans une action commune pour la reforestation des zones menacées par le désert. L'idée consiste à inciter les clients des établissements du groupe hôtelier à conserver leurs serviettes de bain et leurs draps pour plus d'une nuit. Ce geste est censé permettre de réaliser des économies d'eau et d'énergie. Ainsi, selon les responsables du groupe, 50% des économies générées par ce geste sont reversées à SOS Sahel pour le financement du reboisement des zones désertiques des pays sahéliens. Notez que SOS Sahel, qui a été créé en 1978, intervient dans des pays comme le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Le partenariat entre SOS Sahel et le groupe Accor a été lancé en avril 2008 dans une cinquantaine d'établissements du groupe hôtelier au Cameroun, où les clients ont droit à une campagne d'information avec notamment des affiches dans les salles de bain sur lesquelles ils peuvent lire, je cite, « Vos serviettes plantent des arbres ». En décembre de l'année dernière, l'opération aurait permis de planter 50 000 arbres dans les zones concernées par le reboisement. D'ici 2010, plus de 1000 autres établissements du groupe devraient rejoindre l'opération et permettre ainsi, nous dit-on, de planter environ 3 millions d'arbres. Chaque fois que vous prendrez donc possession de votre chambre d'hôtel, pensez à ce geste qui peut contribuer à sauver la planète.
À Madagascar maintenant, pour éviter d'avoir à replanter des arbres, eh bien là on se mobilise pour tenter de préserver ce qui existe déjà.
Oui, absolument. Face au pillage du bois de rose, essence très précieuse. La chasse aux pilleurs est désormais ouverte à Madagascar. Les hauts responsables de la gendarmerie, de la police et de l'administration forestière sont invités à augmenter la fréquence des tournées de contrôle aux abords du parc national de Majorège et de celui de Massoal. Selon les témoignages recueillis par Madagascar Express, les pilleurs ont envahi ces forêts. Des hommes armés sillonnent la zone et organisent ce trafic à destination notamment des pays asiatiques. Comme toujours, les premières victimes de ce pillage sont les villageois de ces régions. Des villageois qui, sous la contrainte de ces bandes armées participent à l'exploitation illégale de ces essences. Pour environ 2 euros par jour, par exemple, certains habitants sont chargés du transport à main nue de troncs d'arbres qui pèsent entre 100 kilos et 1 tonne. Autre conséquence donc de ce trafic, ces grosses saignées dans les forêts du pays mettent gravement en cause la survie d'espèces animales telles que les lémuriens, dont l'habitat est ainsi détruit. Ces animaux sont aussi victimes du braconnage. Leur chair fumée est, nous dit-on, très prisée et vendue sur les marchés. Pour Madagascar Express, la chasse aux pilleurs qui commence risque donc d'être très longue et surtout très rude. Et pour cause, la mafia du bois de rose est puissante et extrêmement bien organisée, observe le journal.
Pour finir sur une note moins grave, retour au Cameroun pour évoquer une expérience en cours sur le thème de la salubrité à Yaoundé et à Douala.
Oui, il s'agit de l'expérimentation de toilettes publiques mobiles. Ces objets urbains devraient changer la vie des habitants de ces deux grandes villes du pays. Ce sont deux petites cabines dotées d'une cuve de 530 litres pour vous permettre de vous soulager si vous êtes pris d'un besoin urgent lors de vos déplacements en ville, comme on dit là-bas. Chaque cabine peut accueillir plus de 1700 personnes par jour. Selon le promoteur, ces toilettes publiques qui se nettoient et se déplacent facilement ont pratiquement été plébiscitées à Yaoundé, la capitale, où elles sont apparues depuis 4 mois. Les usagers de Douala y ont droit depuis la semaine dernière pour une période expérimentale de 3 semaines. Si le test est concluant, la ville portuaire devrait elle aussi l'adopter définitivement, si tel était le cas. Ironise le quotidien Cameroun Tribune. Les images de personnes urinant à tout bout de champ dans la ville de Douala ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir.
Merci Zéphirin Quadio.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
Daniel Cohn-Bendit, une réaction à cette revue Afrique.
Ah bah moi d'abord le partenariat Arcor c'est marrant. Enfin je trouve que il y a une idée derrière d'économie d'énergie qui est intéressante et de reverser. Il faudrait se généraliser ce type de partenariat. Par contre les arbres rose, là, ça va être dur parce que c'est l'exemple des luttes contre les mafias qu'on connaît en forêt amazonienne, etc. Il faut une véritable intervention de l'armée. On voit la difficulté au Brésil, par exemple.
Et justement, quel rôle peut jouer l'Europe par rapport à ce continent qui est aujourd'hui en première ligne face à tous ces problèmes ?
Moi, je crois que l'idée qu'il y avait, même qui a été proposée par la France au G20, au G8, c'est que l'Europe, pas seulement l'Europe, paye justement, aide les pays, l'Afrique par exemple, à s'électrifier et donc à financer.
Oui, mais est-ce que c'est pas là encore un effet d'annonce parce que on parle de 400 milliards.
Exactement, c'est ce que je voulais dire.
Ah, pardon.
C'est ce que je voulais dire. Non, mais vous avez raison. L'idée est bonne, mais il faut le faire. Et c'est la différence entre l'annonce et la réalité et le type de financement dont on a besoin. Et puis alors, il y a un vrai problème que personne n'aborde au niveau mondial, c'est l'eau. L'eau qui va générer les guerres à venir et des guerres sanglantes. Vous pouvez prendre le Moyen-Orient, vous pouvez prendre... Si les Turcs ferment le barrage qu'ils ont fait, eh bien il n'y a plus une goutte d'eau à Damas. Donc vous pouvez voir un peu quelles seront les conséquences géopolitiques, et c'est un exemple sur mille, la rivière du Jourdain. Une des solutions du problème israélo-palestinien, c'est la mise en commun de la gestion de l'eau. Des deux, sinon, ça va être l'affrontement en permanence.
Pour revenir à la campagne européenne, dans le manifeste d'Europe écologique, vous dites que c'est l'occasion actuellement de reprendre notre destin en main pour vivre mieux. C'est ce qu'on essaye de dire tous les jours dans cette émission. Comment est-ce que vous arrivez ou vous avez l'intention de faire passer ce message ?
Je crois que, voilà, nous, notre idée, c'est de dire, on a la crise financière économique et on a la crise environnementale. Si on ne répond pas ensemble à ces crises, si on dit travailler autrement pour vivre mieux, si on ne transforme pas notre économie et nos modes de vie, on n'y arrivera pas. Et transformer notre mode de vie, c'est pas la souffrance de la décroissance forcée, imposée aujourd'hui, dramatique, mais c'est justement une autre gestion, vous savez, qui nous donne plus d'espace de vie. C'est ça. Et ça passe par justement un investissement politique, économique de l'Europe pour transformer nos modes de production et nous permettre de transformer nos vies.
Rendez-vous donc le 7 juin prochain pour les élections européennes. Merci Daniel Cohn-Bendit.
Merci d'être passé. C'est pas du vent. On revient juste après un rappel de l'actualité. Nous irons à la découverte des enjeux environnementaux de la ville de New York. A tout de suite.